Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu, au chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, et deux versets. On va les lire deux ou trois fois. Pour les mémoriser, c'est des versets qui sont importants à connaître. Pour bien comprendre la suite du message. Vous y êtes, Matthieu 7, 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Alors, si vous le voulez bien, on va le lire ensemble. Je sais que vous n'avez pas forcément toutes les mêmes versions, donc ce n'est pas évident et je ne l'ai pas projeté. Mais on va essayer de le lire ensemble. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Prions. Père, merci, parce que ta parole est la vérité, et nous voulons encore la laisser ouvrir notre cœur ce matin, afin qu'elle puisse vraiment produire du fruit, et nous aider à progresser, Seigneur, sur le chemin de la vie avec Jésus. Amen. Amen. Je vais refaire un dessin sur lequel je m'étais arrêté dimanche dernier pour aller plus loin aujourd'hui sur ces deux chemins. Hein. Donc je vais dessiner là le premier chemin de manière un peu synthétique, symbolique, si vous voulez. Voilà, le chemin, donc ça va dans ce sens-là. Et là, un autre chemin qui est étroit. Est plus étroit, voilà, qui va dans ce sens-là. J'avais illustré mon propos là, dimanche dernier sur le fait que je vous propose de voir ça comme une route. Hein, une route à deux voies, sauf que les voies ne sont pas de la même largeur. Hein. Là, il y a une petite voie. Ben bon, il y a quand même une voiture qui peut circuler là. Hein. Donc imaginez une voiture qui circule là. Hein. Donc c'est une métaphore. Hein. C'est-à-dire c'est une image qui renvoie à une réalité spirituelle. Donc c'est la métaphore d'une route à deux voies dans laquelle il y a le passage d'une voiture. Et là, il y a beaucoup de voitures. Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, à la limite, ça, vous pouvez l'étendre beaucoup plus large. Hein, et ça illustre ce verset de Matthieu 7, 13 et 14. Dans ces, disons, à l'entrée de ces chemins, il y a une porte. Hein, donc là, il y a une porte, on va la dessiner comme ça. Voilà. Et là, il y a une grande porte aussi, qui est beaucoup plus large, hein, par laquelle il faut entrer. Voilà, je vais m'appuyer là-dessus pour vous montrer un peu ce que le Seigneur m'a révélé par rapport aussi aux symboles que vous voyez là-haut, hein, qui sont des symboles qui nous rappellent les quatre évangiles. Hein, c'est un peu en rapport avec ça et qui va nous aider à savoir comment le Seigneur veut nous conduire dans les priorités de notre vie. Il y a tellement de choses à savoir dans la vie chrétienne. La Bible est très très et très très fournie que parfois nous ne savons pas par quoi commencer. Mais là, ce sont vraiment les priorités de nos vies pour que nous puissions réussir dans notre vie. Et réussir, c'est pas gagner un million au loto. Ça, c'est pas de la réussite. Mais réussir dans la vie, un peu comme le pasteur Coné disait, pour lui, le plus important, c'est de savoir où il passerait l'éternité. Et c'était ça qui le préoccupait dans la recherche de Dieu. Parce que dans l'islam, il était très, très conséquent dans sa foi de l'islam. Mais il y avait une chose qui lui manquait, c'est l'assurance où il passerait l'éternité. Et son père, qui était déjà un imam, il lui a répété effectivement un verset du Coran, qu'il y aurait la pesée des âmes. Mais pour lui, il savait que s'il allait être pesé, le péché serait plus grand que... Et donc il était inquiet. Et il a voulu absolument savoir, et il l'a su en rencontrant Jésus. Donc on va rester sur les priorités pour que nous puissions nous concentrer dans notre vie sur des priorités. Et ensuite, après, il y a beaucoup de choses à savoir dans la vie chrétienne, mais si on connaît les priorités, eh bien c'est déjà important. Donc cette route à deux voies, qui d'ailleurs a une troisième voie que vous ne voyez pas, que je vous montrerai tout à l'heure, et cette route que Jésus voudrait qu'on comprenne, que nous devons emprunter cette route-là toute notre vie, parce qu'en fait on rentre par la porte. Alors je vous fais un petit peu, j'aime bien l'interaction, comme ça je vois si vous suivez bien. Comment est-ce qu'on entre par cette route? Quelle est cette porte? C'est Jésus, ok? La croix, c'est tout à fait, la repentance, etc. Donc vous voyez, la porte, Jésus a dit « je suis la porte ». Donc il faut rentrer effectivement par la conversion, repentance, etc. C'est Jésus. Cette porte-là, qu'est-ce qu'elle représente, cette porte? Si celle-là représente Jésus, ça représente quoi? Pardon? Parlez un peu plus fort. Pardon? Tout à fait, la chair. Alors, quelqu'un peut, ou toi-même, tu peux développer un peu, parce que chair, c'est un mot où on met beaucoup. C'est un fourre-tout, quoi. Mort fourre-tout. Oui, tout à fait, l'amour du monde. Mais je dirais que la porte, c'est simplement notre naissance naturelle. OK ? Pourquoi je dis la naissance naturelle? C'est-à-dire qu'on n'a besoin de rien faire. C'est pour ça qu'il est facile à rentrer. Hein. Il suffit simplement de naître. Il hein. Y a quelqu'un qui a fait un effort pour naître ici? C'est votre mère hein, qui a fait l'effort. Hein. Mais nous, non. Voilà. Donc vous voyez, c'est facile. Rentrer par cette porte est facile. Hein. C'est la naissance naturelle. Ça, c'est la naissance spirituelle. OK, Jésus. Donc la naissance naturelle, il n'y a pas besoin de faire d'effort. C'est pour ça qu'elle est facile à rentrer. Mais le problème, c'est que quand on passe par cette porte, on est pécheur. OK ? Voilà, c'est effectivement la chair, le monde, tout ça qui domine, parce que sans rien faire, on est malheureusement sous les conséquences du péché d'Adam et de tous ceux qui ont suivi, et nous-mêmes, nous transmettons ce péché. Donc, quand on rentre par là, c'est très facile. Mais la différence de ce verset 13 et 14, c'est pour ça que la Bible, il ne faut pas prendre un verset et en tirer toutes les vérités d'un verset. Il faut prendre toute la Bible. C'est pour ça que là, je ne vais pas le faire ce matin parce que je n'ai pas le temps. Il faudrait prendre tout un tas de versets qui complètent. Alors pour compléter tout ça, je vais faire un raccourci pour vous l'expliquer. Pour vous expliquer que cette métaphore de la route à deux voies fait que dans la Bible, on s'aperçoit que si on rentre ici, d'accord, et que voilà, si on est une petite voiture là qui roule, voilà, on n'est pas condamné à mourir. Parce que là, c'est la mort, là c'est la vie, ok? Et nous, on veut la vie, et pas la mort. Mais on va tous vers la mort, naturellement. Mais Dieu nous donne la possibilité de changer de direction. Il nous permet, hein, il y a un rond-point, et là, ce rond-point-là, on peut tourner, on peut rentrer là. OK ? Vous voyez ? D'accord ? Donc, il a prévu la possibilité de rentrer là. Mais, le problème, c'est qu'il a aussi prévu que quand on rentre là, hein, donc là, on devient chrétien, évangélique, voilà, super. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'assurance absolue de rester sur cette route-là. Je ne parle pas du salut final. Hein. Ça, c'est un gros débat théologique que j'aborde pas ce matin. Il y en a qui disent sauver, toujours sauver. Bon, il y en a qui disent on peut perdre le salut. Bon, je ne rentre pas là-dedans, c'est pas l'objet et ce n'est pas le plus important. Mais ce que je dis, c'est que sur cette route-là, on peut, à un moment donné, faire des écarts. Hein, aller dans ce sens-là. Simplement parce que ce que je vous ai dessiné ici, c'est pas une autoroute avec un mur de béton au milieu, vous voyez, quand vous voulez traverser, vous heurtez le mur de béton, donc vous êtes protégé. Ça, c'est une route où ça, c'est une ligne blanche. Voilà. Donc j'ai bien réfléchi avant de vous enseigner pour avoir la bonne image, la bonne métaphore, pour qu'elle soit le plus proche de ce que la Bible enseigne. Donc c'est une ligne blanche. Or, quand vous êtes sur une route, hein, sur une route, et vous avez une ligne blanche, vous êtes ici, hein, et vous allez dans ce sens-là, est-ce que quelqu'un dans la salle, qui est conducteur, n'a jamais passé la ligne blanche? Levez la main. N'a jamais traversé une ligne blanche. C'est bien, vous êtes honnête. Donc on a tous passé la ligne blanche à un moment donné. Ne serait-ce que pour éviter, bah, passer un tracteur, quelque chose, voilà, bon, ok, d'accord. Donc il y a la loi et puis il y a la pratique. Bon, quand on voit personne en face, on prend des dispositions et on le fait occasionnellement, ok, voilà. Donc ce qu'il faut que je précise, c'est que cette route-là, elle n'est pas plate. Elle est bosselée comme ça. C'est comme, je sais pas, un endroit dans Normandie, je crois. Oh, hein, ça existe, ça. Je ne sais plus comment s'appelle la région. C'est tout, comme ça, comme ça. Ce qui fait que quand vous roulez ici, vous voulez dépasser, vous avez une ligne blanche, mais vous n'osez pas parce que vous ne savez pas s'il y en a un qui monte. Ici, c'est pareil, donc vous vous méfiez. Et si jamais vous prenez un risque, parce que, voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un en face. Et là, vous le prenez soit en pleine figure ou la personne peut vous éviter, dans le meilleur des cas. Hein, ça arrive aussi, hein, on a tous passé. Oui ? Cabossé. C'est des routes, là, en fait. Hein. C'est deux routes. Les deux routes sont cabossées. C'est-à-dire que le Seigneur, hein, il le fait exprès. Disons que c'est compliqué à expliquer parce que l'ennemi est là-dedans, donc Seigneur, il n'oblige pas l'ennemi à faire des bêtises, mais il les fait tout seul. Mais il se trouve que, pour la métaphore, pour expliquer bien ce que dit la Bible, cette route est cabossée de manière à ce que vous pouvez prendre des risques, mais le risque, c'est que vous rencontrez quelqu'un en face et que là, soit la personne vous évite ou soit vous avez l'accident. Ça peut être un accident pas très grave parce que c'est de la tôle, ça peut être un accident plus grave. Mais n'empêche que vous prenez des risques. Voilà, donc si vous traversez la ligne blanche, vous prenez le risque. Maintenant, je prends un autre cas de figure, c'est que vous roulez dans votre vie chrétienne et que, vous voyez, le risque, c'est le problème de la conscience. La conscience, c'est cette petite voix qui vous parle et qui parfois ne vous parle plus. Parce que vous usez trop de cette conscience, vous jouez un peu avec le péché, c'est le problème de la pornographie ou d'autres choses, hein. Et puis vous dites, ah, ben, c'est pas bien, tout ça, puis à un moment donné, vous voyez que ça va mieux, puis à la fin, ben, voilà, vous êtes dans le péché, et vous avez du mal à sortir. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez cette image, que vous passez la ligne blanche, et que vous voyez qu'il n'y a personne en face, ou que la personne en face arrive à dévier, parce que la route est large, donc voilà, il peut dévier tranquille, c'est super. Vous commencez à vous passionner pour ce risque de rouler sur le mauvais côté. Le problème, c'est qu'à un moment donné, et ça c'est la Bible qui l'enseigne, c'est que votre petite voix ne peut vous parler. Et puis, sans que vous en rendiez compte, ben, vous allez tout simplement reprendre le chemin. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez bien que c'est risqué, et du coup, en prenant le chemin large, eh bien, vous n'avez plus le risque. C'est beaucoup plus agréable. Donc, le confort fait que votre vie, votre manière d'être, fait qu'elle va se reconformer au monde. Et vous pouvez devenir rétrograde, c'est ce qu'on appelle devenir rétrograde, en rétrograde dans notre vie spirituelle. Et ça, c'est quelque chose qui est constant. C'est aussi vrai pour quelqu'un qui se convertit. Vous voyez, le Seigneur donne une grande grâce quand on se convertit. Et après, un peu comme si la grâce s'arrêtait, ce que disait Cosette, et le Seigneur veut que, personnellement, nous prenions la responsabilité de notre vie chrétienne, qu'on l'assume. Parce que Dieu nous laisse libre. Au départ, on est presque pas libre parce qu'on a la grâce, on est libre quand même, mais le Seigneur veut qu'on assume cette grâce et qu'on vive dans la grâce. Et donc qu'on respecte le code de la route pour rester sur le chemin étroit. Au passage, je vous renvoie à un petit livre qui existe et qui explique ça très très bien. Je vous encourage à le lire, et il y a même des films là-dessus qui voient ce à quoi je pense. Dans l'histoire, en 18e siècle, ça a été écrit par John Bunyan, ça s'appelle Le voyage du pèlerin. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire, c'est une histoire. En plus, Michel, qui a préparé son agrégation d'anglais à la Sorbonne, les plus grands professeurs, ils ont dit, on ne comprend pas comment un homme comme ça a pu écrire un livre comme ça, parce qu'il était ferblantier. Il était ferblantier, il n'a jamais fait d'études, cet homme-là, Bunyan, je parle, John Bunyan. Il n'avait que le temps de Wesley. Et il a écrit ce livre et s'est étudié en agrégation, tellement les professeurs sont bavards, disons. Il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc vous pouvez le lire, c'est très très simple, c'est le voyage du pèlerin qui voyage sur ce chemin-là, et de temps en temps il rencontre cette route-là, il rencontre des lions, il rencontre des choses, etc. Et il explique comment votre vie chrétienne, vous pouvez la vivre sur ce chemin qui monte et qui arrive à la gloire. Voilà, donc je renvoie ce livre, Le voyage du pèlerin, John Bunyan. Il y a même un film, même sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous avez Voyage du pèlerin, vous pouvez le regarder. C'est très très bien. Voilà, donc ça illustre un peu aussi cette métaphore-là des deux chemins, d'une autre manière, mais à la manière du XVIIIe siècle. Donc je reviens à ce chemin qui est tracé. Alors il y a une troisième voie qui est beaucoup plus dangereuse que les deux voies. C'est laquelle? J'en ai parlé dimanche dernier, mais peut-être un peu vite, donc vous ne l'avez peut-être pas saisi, la balle au bond. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Hello? Non? Rémi? Non, 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 non. Alors, oui. Il se trouve où l'ésotérisme? Ah, c'est un mot que je ne connaissais pas, moi, l'ésotérisme, il y a quelques années. Et puis, le Seigneur m'a obligé à chercher qu'est-ce que c'est que ça, l'ésotérisme. Je pensais que ça nous touchait pas, voilà, en tant que chrétien. Eh bien oui, c'est où l'ésotérisme? Ça veut dire quoi, ésotérisme? Vous savez, tout le français vient du grec, donc c'est des mots grecs. Non, non, ésotérisme ne veut pas dire ça. Oui, ce qui est caché. Ésotérisme, c'est ce qui est caché. Et si vous voulez l'inverse d'ésotérisme, c'est exotérisme. Vous savez, on a beaucoup de mots à exo, exothermie, exo, je ne sais pas. Exo, ça veut dire extérieur, extérieur. Éso, ça veut dire intérieur, c'est tout. C'est du grec, bon, le français vient du grec. Donc, ésotérisme, ça vient de connaissances cachées. Et exo, c'est connaissance ouverte. Et dans ce chemin-là, sur ce chemin-là, ce que vous voyez, ce que nous on voit, ce que moi je vois dans le monde et dans la religion, c'est surtout dans la religion, c'est exotérisme. Je ne vais pas attaquer une religion particulière, mais bon, si on prend la religion catholique, il y a tout dedans, donc voilà, on ne peut pas se tromper. La religion catholique, elle est exotérique. Exotérique. C'est-à-dire qu'elle explique ce que dit la Bible, mais elle explique aussi autre chose. Bon. Et donc, l'exotérisme, c'est la religion qu'on pratique et tout ça. Tout le monde, voilà, voit le Christ sur la croix, et tout ça. Enfin voilà, tous les symboles sont là. Donc, exotérique. Mais il y a des personnes, alors ça s'adresse à des élites, c'est-à-dire des gens qu'on appelle des initiés, qui sont enseignés dans l'exotérisme. Et dans l'exotérisme, il y a une échelle, voilà, que vous ne voyez pas, mais qui est l'ésotérisme. Et ça touche beaucoup de gens, et surtout ceux qui nous dirigent. C'est ça le problème. C'est que vous ne le voyez pas, nous on ne le voit pas, mais c'est ceux qui dirigent, ceux qui veulent gouverner, ceux qui ont leur pouvoir et tout ça, ils sont tous dans l'ésotérisme. C'est-à-dire qu'on leur enseigne des choses cachées en disant « Le peuple, il ne le voit pas, mais vous voyez ce qui se passe, etc. » Et l'ésotérisme, c'est l'échelle qui va jusqu'à Satan, en fait. Donc, voilà, il y en a qui, voilà, qui cherchent. Parce que c'est pour ça que Jésus dit, le royaume de ce monde, il est dirigé par le prince de ce monde qui est qui ? C'est Jésus qui dit Satan, pas moi. Okay. Donc, le prince de ce monde, qui dirige forcément les grands de ce monde, eh bien, cette échelle qui est cachée là, qui selon les traditions ont plusieurs barreaux, hein, il y en a qui ont 3, 10, 30, jusqu'à 33, pour certains, ça c'est caché. Et comme vous ne le voyez pas, vous avez l'impression que ça n'existe pas. Mais ça existe aussi dur que vos chaises qui sont là. Donc dans cet ésotérisme qui est caché, eh bien, le monde est tiré par là. Et au travers de ça, c'est Satan qui est derrière, bien sûr, qui tire les ficelles comme dans un jeu de marionnettes. On appelle ça aussi la métaphysique, etc. Voilà. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans des détails qui sont inutiles pour vous. Ce qui est important, c'est de le savoir que, en fait, il y a trois voies. Il y a la voie étroite, qui est très simple. Il n'y a pas d'ésotérisme. Dans la voie étroite, Jésus, c'est la vérité, le chemin, la vérité, la vie. C'est ça. Hein. Et lui, il ne cache rien. Il ne cache rien. C'est clair, c'est limpide, c'est voilà, c'est tout. Par contre, ici, il y a la voie large que tout le monde emprunte, naturellement. Mais il y en a d'autres qui empruntent d'autres voies qui vous tirent. Et si vous n'êtes pas libéré de ça, conscient ou pas conscient, peu importe, de toute façon, on est tiré dans ce sens-là, eh bien, il faut rentrer par cette porte qui est Jésus et chercher à rester là. Et si on a traversé la ligne blanche, de revenir le plus vite possible. Et c'est pour ça que Jésus a placé l'Église. L'Église, c'est des frères et sœurs hein, qui localement se réunissent et qui se reprennent mutuellement pour dire, attends, là, tu es en train soit d'être sur la ligne blanche, bon, c'est pas trop grave, mais d'être de l'autre côté de la ligne blanche, et là, fais gaffe, parce que les voitures en face, même si tu ne lui vas pas, ça peut venir, et qui vous aide à revenir du bon côté. Voyez, c'est ça, en gros, l'Église. La communauté des croyants qui nous aide, eh bien, dans l'adoration, la louange, de marcher ensemble dans cette voie jusqu'à la délivrance finale pour rencontrer le Seigneur. Est-ce que à ce niveau-là, c'est clair ? Alors, je vais compliquer un peu ce modèle pour vous parler des quatre routes. En fait, il y a quatre routes et chaque route a une direction donnée. À une caractéristique donnée. Donc l'autre route, bon, on va aller dans ce sens-là. Hein. Voilà, on va faire ça. Donc là, c'est une autre route. Alors je dessine d'abord les routes étroites. Voilà, la route étroite. C'est toujours la route du royaume de Dieu. Hein. Et là, il y a les grandes voies, les grandes artères qui sont également balisées. Pour qu'on puisse les emprunter. Voilà. Je vous propose cette compréhension qui peut vous aider beaucoup. Et en fait, ils sont symbolisés. Les symboles, ce sont des images qui renvoient des réalités. Donc le symbole, l'image du symbole veut dire quelque chose. Voilà. Ensuite, après, la réalité, c'est derrière le symbole. Hein, le symbole, ce n'est pas une réalité. Mais ça renvoie à une réalité. Donc là, je vous propose ces quatre routes. Et au centre, bien sûr, il y a Christ. Okay. Christ qui veut qu'on marche sur ces chemins étroits. Hein, et tout est centré sur Christ. Alors ça, c'est l'enseignement de Colossiens, Paul aux Colossiens, hein, que je pense que vous connaissez bien aussi, que je vais vous relire dans le contexte de ce que Paul a écrit, pour pas me tromper, dans l'Épître aux Colossiens. L'apôtre, dans le premier chapitre extraordinaire qu'il lit, il a dit « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être tout le premier. Ok. Donc Jésus, c'est au travers de Jésus que Dieu le Père, qui fait aussi partie de la divinité, a tout créé, et tout va sur lui, et tout vient de lui, et tout est en lui, etc. Voilà. Donc c'est le centre, c'est pour ça que c'est notre centre, et c'est celui qui nous mène sur ce chemin étroit, et qui nous donne le Saint-Esprit, et l'Église, et les frères et sœurs, pour que lorsque nous quittons la ligne blanche, nous puissions y revenir. Nous quittons la ligne blanche. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai pas voulu aborder la question sauvé, toujours sauvé, ou on peut perdre le salut. Pourquoi ? Parce que dans ce que je vous enseigne, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Ça peut avoir un sens théologique, voilà, est-ce que je perds mon salut ? Mais ce qui est important, c'est que pour que chacun de nous, et l'Église en particulier, qui est aussi un rassemblement de personnes physiques à un moment donné, à un instant T, que chacun de nous et l'Église puissent rentrer dans notre destinée, puissent rentrer dans notre plein potentiel, puissent exercer pleinement toutes les caractéristiques que Dieu a mis en nous, mais qui sont potentielles. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'elles doivent se développer, elles doivent être libérées. Voilà. Pour que tout ça, ça arrive, ben, il faut que le plus possible, on reste sur ce chemin-là. C'est pour ça que j'ai dit que quand on quitte le chemin, c'est pas dramatique. On le fait tous. Okay ? Tout à l'heure, j'ai fait le... C'est pas dramatique. Sauf qu'il faut pas y rester. C'est tout ce que je dis. Faut éviter d'y rester. Parce que d'une part, en y restant, on voit que le danger, voilà, s'il nous arrive rien, bon, bah, on dit, tiens, c'est super. Voilà. Parce que le fait de transgresser quelque chose, ça a du peps, vous voyez ? C'est... Voilà. Ça fait partie du peps de pouvoir transgresser les lois. Donc petit à petit, on s'habitue, on peut même être rétrograde. Mais le pire, c'est que bon, on peut avoir des accidents, on peut avoir de la tôle froissée, ce qui n'est pas très grave, mais beaucoup plus grave, des accidents plus graves. Donc voilà, c'est pour notre bien. Okay ? Et pour qu'on puisse rentrer dans notre potentiel. Quand on reste sur ce chemin-là, on rentre forcément dans le plein potentiel de chacun de nous, parce que c'est Dieu qui assure notre transformation, notre épanouissement, etc. Est-ce que vous me suivez jusque-là ? Ok. Alors, je vais nommer les routes. Oui ? Non, vas-y. D'accord, j'ai nommé les routes. Ok ? Chacune de ces routes, qui correspond à ces symboles, je vais les nommer. Ici, c'est la foi. La route de la foi. Ok ? Ici, c'est la route de la raison. Ici, c'est la route de la foi. Ici, c'est la route de la raison. Ce qui m'a toujours interpellé, quand je me suis converti en 1968, 67, 68, j'étais dans les groupes bibliques universitaires, et le gros débat qui a toujours hanté les chrétiens depuis 2000 ans, c'est foi et raison. Comment est-ce qu'on peut, disons, ne pas exclure l'un, exclure l'autre, etc. Parce qu'on sent bien que, voilà, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et c'est des débats théologiques sans fin. Des grands théologiens, tous ont cherché à régler ce problème. Et là, le Seigneur m'a montré, mais je dis oui, c'est la foi, la raison. C'est-à-dire, en Christ, pour reprendre le chemin étroit, ici, par exemple. Alors, il y a deux axes aussi. Hein. Il y a quatre routes, mais il y a deux axes. Il y a cet axe-là et il y a cet axe-là. Cet axe-là, c'est l'axe de notre identité. Notre identité, qui nous sommes. Et cet axe-là, c'est l'axe de l'histoire. C'est l'axe de l'histoire. Vous savez que Jésus-Christ est au centre de l'histoire de toute l'humanité. C'est la croix qui représente le centre de l'histoire. Tout est centré sur lui, y compris l'histoire. L'histoire de l'humanité est centrée sur ce qui s'est passé à la croix. Que ce soit prophétiquement ce qui était annoncé ou ce qui va venir, tout est centré sur la croix. Mais ici, c'est l'identité. Notre identité, alors je vais vous poser une question. À quoi, dans la création, hein, Genèse 1, Genèse 1, Genèse 2, Dieu créa les cieux, la terre, etc., l'homme, la femme, etc. Qu'est-ce qu'il est dit ? À quoi nous ressemblons ? À l'image de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir en quoi est-ce que la femme, est-ce que l'homme est une femme ? Est-ce que Dieu est une femme ? Est-ce que Dieu est un homme ? En quoi ressemblons-nous à Dieu ? Je vous écoute, si j'entends le bon mot, je fais stop. Moi aussi j'ai cherché pendant des années. Pardon ? Caractère. C'est pas faux ce que vous dites, mais c'est... Pardon ? Pardon ? Ouais, non, c'est la raison. Pourquoi la raison ? Non, mais Julie, c'est pas juste, je sais comment elle fonctionne. Elle regarde le tableau et dit, ça doit être ça. Non, mais je plaisante. Mais elle a raison, elle a raison. C'est la raison. Et pourquoi la raison ? Regardez la création. Vous avez déjà pris des cailloux. Est-ce que les cailloux, ils peuvent résonner ? Oui, ils résonnent quand tu vous lancez dans une caverne, ça résonne. C'est pas la même raison. Est-ce qu'un caillou, il parle avec vous ? Bon. Est-ce qu'un animal, même un chien, est-ce qu'il parle avec vous ? Il communique. Ok. Il se rapproche déjà de Dieu, mais voilà. Mais une personne, c'est la seule créature que Dieu a créée qui peut parler. Et c'est pour ça que Cosette, quand elle parlait de communication, je vous renvoie à son conférence, elle est très très riche parce qu'elle a parlé de choses extraordinaires, qui parle, qui montre comment se passe une communication. La communication, ça passe par la raison. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas communiquer n'importe comment, n'importe quoi, etc. Sinon, c'est plus de la communication, c'est du n'importe quoi. Vous allez parler avec du sens, votre conjoint déjà, avec vos enfants, etc. Ok ? Donc la raison, c'est la capacité, c'est l'intelligence, si vous voulez. Bon, raison, il faut enlever un peu tout ce qu'il y a autour du mot raison. C'est la capacité à communiquer de manière intelligible, compréhensible, etc., les uns avec les autres, et avec Dieu. Ok ? Et ça, c'est propre à l'homme, parce que Dieu a fait l'homme libre, donc il lui a donné une capacité dans sa liberté de pouvoir s'exprimer comme Dieu. La seule chose, ce qu'il souhaite, c'est qu'on mette sa raison en soumission à lui. Vous voyez, c'est la seule différence, c'est qu'il faut qu'on la soumette volontairement à Dieu, notre intelligence. Etc. Mais c'est la raison. C'est la raison. Et la foi, elle permet quoi ? Hébreux 11. Qui connaît Hébreux 11 ? Versets 1 et 2 par cœur. La foi, c'est... Amen. Amen. Oui, bien, bien, bien. Parfait. Alors moi, dans ma Bible, j'ai mis dans l'annotation quelque chose qui me parle plus que ça pour bien me donner la définition de la foi. J'ai mis à côté, la foi, c'est la possession des réalités divines. Parce que quand on cherche, j'ai beaucoup cherché en grec et tout ça, quel est en grec ce verset-là, la meilleure traduction que j'ai trouvée, qui est toujours conforme au grec, à la parole de Dieu, c'est de posséder les réalités divines. Mais c'est plus qu'avoir l'assurance des choses que l'on espère. Hein, parce qu'il y a le mot assurance, il y a le mot espérance. Non, c'est la possession des réalités divines. Quand vous exercez la foi telle que Dieu la demande, telle que Dieu l'a fait avec le centenier, en disant cet homme a la foi, j'ai jamais vu en Israël un homme autant de foi. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit ta fille est guérie, et il a dit ok, je rentre à la maison et elle est guérie. Allez, pas discuté. La foi, il a saisi la réalité. Dieu, Jésus était en train de lui dire une réalité. Il dit ta fille est guérie. Vous avez bien entendu ce que Jésus a dit ? Mais il l'a cru. Et elle était guérie. Vous voyez ? Il n'a pas discuté, il n'a pas discutaillé, il n'a pas... Voilà. Donc, il a saisi la réalité de la guérison et il l'a vu. C'est pour ça que quand vous voulez vous guérir ou guérir quelqu'un, il faut la foi. Ok ? Il faut saisir la guérison et l'actualiser. Regardez Colin Urquhart, Kingdom Faith, il a donné cet exemple. Il avait le cancer. Enfin, les médecins lui ont diagnostiqué le cancer. Il n'a jamais prononcé le mot cancer. Et comme moi j'appelais sa secrétaire, elle n'a jamais dit qu'il était malade. Il a dit non, non, c'est pas ma maladie, c'est la maladie que les médecins ont diagnostiqué sur moi. Moi, je ne suis pas malade. Et je saisis la guérison. Et aujourd'hui, il est parfaitement guéri et il continue son ministère. La foi, c'est saisir les réalités de Dieu. Ok ? Bon, je vais vite parce que je n'ai pas le temps. Foi, raison. Ici, c'est la foi et la raison dans l'histoire. Ça, c'est la foi et la raison dans mon individualité propre. Mais dans l'histoire, il y a aussi la foi et la raison. La raison, elle s'adresse à la tradition apostolique, c'est-à-dire à la parole de Dieu qui a pris soin de nous transmettre tout ce qui concerne Jésus avec le maximum de précision. Vous avez l'évangile de Luc. Luc, il est représenté par la coupe bleue, là. L'évangile de Luc. Comment est-ce qu'il commence l'évangile de Luc, Rodrigue ? Tu te rappelles le premier verset ? C'est étonnant parce que c'est le seul évangile qui commence comme ça. Allô ? Non. Luc. Luc, je vous rappelle, c'est un médecin. Luc, c'est un médecin. Hein. C'est quelqu'un de rationnel, quelqu'un de. Il y a la raison. Hein. Voilà, Luc, retournez à vos Bibles. Luc, un médecin, rationnel. Il a une bonne tête. Avant d'écrire l'évangile, il a d'abord fait, une enquête. Il a fait une enquête. Vous voyez ? Il n'a pas écrit l'évangile comme ça. Il a fait une enquête. Une enquête de tous les témoins oculaires, tous ceux qui ont vu Jésus. Il les a interrogés. C'est tout un travail, Luc. Il les a interrogés et il a dit, j'ai écrit, ce que vous lirez après dans l'évangile, tout ce que j'ai écrit, j'ai tout comparé pour que vous ayez exactement ce qui s'est passé. Fantastique, ça. Il n'y a que Luc. C'est le seul évangile. Donc, vous voyez, chaque évangile, chaque bonne nouvelle, repose sur quelque chose. Et ça repose sur la raison. La raison, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'on parte sur des histoires, sur des mythes, sur des machins fantastiques et tout ça. Voilà. Il veut qu'on soit sur la vérité. Et moi, j'ai aimé le pasteur Conné qui a fait ce travail. Et imaginez-vous que dans sa recherche, il a cherché toute sa vie, pendant 20 ans, mais à un moment donné, pendant 9 mois, il a cherché, il a perdu 20 kilos dans sa recherche. Perdu 20 kilos, juste parce qu'il a cherché la vérité. Et dans le courant, il a vu que deux versets, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et lui, dans sa cabine, tout seul, il a dit ça, c'est un faux verset. Waouh ! Incroyable ! Il a remarqué que là, c'est un faux verset parce que ça contredisait un autre verset du Coran. Et le verset du Coran, il a vu que Jésus était ressuscité. Et là, il n'était pas ressuscité. Donc, ce Dieu-là, il ne peut pas mentir. Donc, c'est les hommes qui ont menti. Ça, il faut le faire, hein. Ça, il faut le faire. Trouver une erreur dans le Coran en recherchant la vérité, voilà, là, chapeau, hein, là, on s'incline. Voilà, donc la raison, ici, c'est pour être sur la vérité, et que la vérité, et toute la vérité, et l'absolue vérité. C'est pour ça que Luc, il va dire, tout ce que j'ai écrit, vous pouvez le vérifier, moi je l'ai vérifié. Jusqu'à 500 témoins qui ont vu ces choses. Voilà. La foi, ici, c'est la foi dans l'histoire. Il y en a qui croient que Jésus est toujours vivant. Voilà. Mais il y en a qui ont dit que Dieu est mort, hein. Nietzsche, etc. Bon. Et il y a des gens qui le croient. Jésus est ressuscité, il est vivant. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Est-ce qu'il joue aux cartes ? Non, mais attends, faut rester sérieux. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Il attire tous les hommes à lui. Il attire les gens. Il attire les voilà. Et pour ça, il faut la foi pour croire que Jésus agit encore aujourd'hui. Pour voir des réalités que les hommes ne voient pas. Et j'ai bien aimé Lucie et Philippe qui ont vu des réalités qu'ils reconnaissent comme étant de Dieu. C'est ça la foi. Mais c'est de discerner dans ce que vous vivez et dans ce que vous allez vivre ce qui est de Dieu. et ce qui n'est pas de Dieu. Les deux. Et c'est là qu'on en vient, je vais terminer là-dessus, parce que le temps passe. Mais je reviendrai là-dessus, si vous voulez, ça c'est juste une introduction à une série de messages. C'est que là, il y a la foi dans la parole. Raison servante de la foi. Hein, parce que là, il y a un équilibre. Hein. Il faut que la foi s'équilibre avec la raison, et là aussi. La foi, c'est la foi dans la parole de Dieu. La raison, elle est servante de la foi. Ici, c'est la raison sur la tradition apostolique, et pas sur d'autres traditions. Et ici, c'est la foi dans l'action de Dieu qui est conforme à la tradition. Il faut de nouveau être équilibré avec ça, parce que ça permet de refuter les manifestations qui ne viennent pas de Dieu, parce que Satan a les mêmes capacités de Dieu jusqu'à un certain temps. Regardez en Égypte avec Moïse, il a pu faire les premiers miracles, et puis après s'est arrêté. Mais il est capable de les faire. Donc, attention, il faut toujours que ce qui... Si vous franchissez la ligne blanche ici, où est-ce que vous arrivez? C'est tout notre problème, c'est que nous sommes en danger. C'est nous sommes dans une foi aussi, parce que là aussi, hein, il y a une foi. Mais cette foi-là, comment est-ce qu'on peut la qualifier? Ça, c'est la foi dans la parole, dans les promesses de Dieu. Seigneur, je saisis les réalités du royaume de Dieu et je les applique et je les vis. Mais sur ce chemin, donc le chemin ici, c'est le chemin de la foi, je dirais rationnelle. Rationnelle au sens de divinération, hein, la raison de Dieu. Donc vous voyez, foi rationnelle et raison qui est conforme à la foi. La foi rationnelle, ici c'est une foi, mais c'est une foi irrationnelle. C'est une foi irrationnelle. Eh oui. Vous savez, c'est pas compliqué. Quand on arrive à des choses simples, tout est simple. Quand on complique les choses, on s'en sort plus. C'est une foi irrationnelle. Comment vous appelleriez une foi irrationnelle? Alors, vous savez, c'est très simple pour garder autour de vous. Et les Français, le français, il est dans le maximum de tout ça. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un pays où on peut facilement comprendre ça parce qu'on est au maximum là, au maximum là, au maximum là, au maximum là. Pardon ? Mauvaise foi. Alors, mauvaise foi, on fait partie. Pardon ? Non, c'est la superstition. Une foi irrationnelle, c'est de la superstition. Vous avez déjà vu les Français ? Ah, voilà, il y a un fer à cheval, il y a le chat noir. Il y a l'échelle en dessous. Est-ce que je plaisante ou... Ok. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas que le français. Mais le français est extrême, pourquoi? Parce que dans ce sens-là, ici, il est extrême aussi. Quelle est cette raison-là cette raison. Comment vous qualifiez cette raison? Parce que là, c'est la raison servante. Servante de la foi, hein, pour comprendre la foi, pour prendre la foi à l'intérieur d'eux. Mais ici, c'est quoi comme raison? Pardon? Oui? C'est la raison du rationalisme. Vous savez, à chaque fois que vous mettez un isme derrière quelque chose, effectivement, ça rejoint l'idolâtrie. Dès que vous mettez isme, ça veut dire on idolâtre la raison. Et qu'est-ce qui a commencé dans le monde entier à prôner ça? Descartes. Qu'est-ce qu'il a dit Descartes? Cogito. Vous n'avez jamais entendu parler de cogito ergo sum? Je pense donc je suis. C'est Descartes, c'est un français. Voilà. On a la palme des extrêmes. Donc ici, je pense donc je suis. Donc du moment que je pense, on ne pense pas que Dieu nous a fait penser. Mais je pense donc je suis. Donc je suis Dieu. Voilà. Donc c'est le summum de la raison. Et c'est ça qui est mauvais, c'est cette raison-là qui est mauvaise, c'est le rationalisme. Okay. Donc foi, superstition, les Français sont là, ils ne croient que ce qu'ils voient, c'est ça le rationalisme. Je crois que ce que je vois. Okay. Mais en même temps, ils croient à la superstition, ils sont superstitieux. Ils ont peur de ceci, de cela. Et les deux, parce que les deux se rejoignent dans le prince de ce monde. Je termine là-dessus, sur les deux extrêmes ici. C'est quoi l'extrême ici? Là, c'est la foi dans l'action de Dieu. Donc je reconnais que Dieu est souverain, je reconnais que Jésus-Christ règne, je reconnais que Jésus est le maître, je reconnais dans ma vie, etc. Quel est l'extrême de la route qui va dans l'autre sens? Pardon? Alors, ça en fait partie, mais ce n'est pas l'extrême. Pardon? Non. Oui, alors qualifie l'extrémisme. J'ai beaucoup cherché aussi, hein, moi. J'ai fait le travail avant vous. Il y a un extrême que j'ai vu, ça s'appelle l'anarchisme, l'anarchie. Il y en a qui ont entendu ce mot, anarchie? Ça veut dire quoi, anarchie? Ça vient du grec aussi, là. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. Anarchie? Archi, c'est quoi, archi? Arché. Archi, arché, c'est grec, archi, l'archi, hein, la hiérarchie. La hiérarchie, vous avez tous une hiérarchie. Non, c'est le chef. Hiérarchie, c'est le chef. C'est-à-dire, c'est sans chef. Là, c'est sans chef. Je veux pas de chef. Sans chef. Voilà. Pas de chef. Ok. C'est l'anarchie. Sans chef. Je vous renvoie à ceux qui ont fait la Révolution française. Ils voulaient plus de chef. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme chapeau? Le bonnet phrygien. Il vient d'où? De la Phrygie. La Phrygie, c'est en Asie mineure, là où était Paul. Et là-bas, on mettait ce bonnet à des esclaves qui étaient libérés. Donc les Français ont dit, on va être libérés du joug du roi, libérés du chef, et on est maître. Voilà, c'est ça. C'est le summum de la liberté totale, c'est l'anarchie, c'est sans chef. Et ici, la raison. Ah, c'est plus difficile à trouver. Ici, l'extrême, ici, c'est les traditions... ce qu'on appelle primordial, les premières primordiales. Les traditions primordiales, c'est l'enseignement que aujourd'hui et dans le Nouvel Âge, c'est le paganisme, c'est le panthéisme, c'est l'explication de tout ce qui est dans le monde occulte pour expliquer que l'origine, c'est l'âge d'or. Il faut revenir à l'âge d'or. Pour eux, l'âge d'or, c'est de revenir dans la Genèse où Dieu avait créé l'homme et la femme, etc. Le problème, c'est qu'elle a chuté. Donc, en fait, ils cherchent la chute. Et en fait, ils pensent qu'eux, ils vont trouver l'âge d'or qui est le summum de la civilisation, etc. Alors que là, c'est la tradition apostolique. Révélation des apôtres. Ici, c'est une tradition primordiale. C'est un peu plus compliqué à trouver, mais je vous en parlerai plus la prochaine fois. Ces quatre éléments sont des routes où le Seigneur veut qu'on puisse exercer la foi et la raison. Parce que la raison, elle vient de Dieu, elle nous donne cette dignité d'humain qui pouvons être capables de choisir le bien et le mal, toujours avec la grâce de Dieu. Parce qu'ici, on est dans la grâce. Ici, on est dans la grâce. C'est-à-dire qu'on fait, mais en même temps, on est aidé à faire. Le Saint-Esprit vient à notre secours. Mais dès qu'on passe la ligne blanche, le Seigneur dit, « Ok, tu veux être tout seul ?» Mais tu es tout seul, et là, on est tout seul. Et là, on fait avec nos propres forces. On cherche à faire, on cherche à se vivre. Amen. Et là, on est en danger. Amen. Donc, restons dans la grâce et laissons le Seigneur faire avec les quatre évangiles, les quatre bonnes nouvelles de Jésus-Christ. Et Jésus, dans ses évangiles, il a vécu tout ça. Si on regarde les évangiles, un après l'autre, on voit que Jésus a exercé la foi, il a exercé la raison, il a exercé la capacité d'agir dans la foi, dans l'histoire, il a guéri, etc. Et là, il a établi la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Prions. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité et il nous enseigne encore, Seigneur, que Seigneur, nous devons rester sur ce chemin étroit qui mène à la vie, mais qui n'est pas facile. Alors aide-nous, Seigneur, à ne pas franchir la ligne, ou si nous la franchissons, qu'un frère ou une sœur puisse nous aider à revenir sur ce chemin qui mène à la vie. Seigneur, merci parce que tu as placé des frères et sœurs à nos côtés pour nous aider à ne pas nous laisser entraîner par les voies de ce monde, le prince de ce monde, qui cache des choses et qui nous cache des choses. Mais Seigneur, toi, tu ne caches rien. Et tu veux qu'on soit transparent avec toi et avec les autres. Et nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.